dernière personne de la journée et on la remercie infiniment d'avoir accepté cette tranche horaire difficile. Mais le public est là pour Bonjour. Intervenir, donc Madame Sophie Penn.
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, le titre qui a été donné par les commissaires de cet événement à mon intervention comprend le mot métamorphose. Un mot audacieux parce que quand on parle de ça, on hésite toujours. On dit transformation, transition, métamorphose et il y a plein de façons de dire que rien ne va. Métamorphose, je pense que dans un processus phylogénétique, c'est une mue, soit par la croissance, soit par une adaptation à l'environnement, qui est très très forte et dans laquelle la première apparence ne se reconnaît plus dans l'apparence nouvelle. C'est aussi dans la mythologie ce qui arrive à un humain quand il est arrivé trop près des dieux, quand il s'est trop mêlé des affaires des dieux, comme chez Ovid. Pour nous, si on parle de métamorphose digitale par rapport aux universités, on voit bien que nous sommes en train de vivre de violents changements d'environnement. Le changement ne vient pas de chez nous, il vient du dehors. Nous ne sommes plus les maîtres de l'agenda. Nous vivons des désintermédiations, des disruptions. Des gens dehors inventent notre métier autrement, que ça nous plaise ou non, et ça semble plaire à beaucoup d'étudiants. Tout ça est très rapide. Les intervenants qui m'ont précédé l'ont bien montré. François parlait de l'intelligence artificielle ou de la réalité virtuelle. Il y a 18 mois, personne ne pensait que ces sujets latents allaient devenir aussi cruciaux pour notre activité. Qui s'occupe de cette métamorphose à l'intérieur de nos établissements? Beaucoup de gens, au niveau de l'administration centrale, à l'intérieur de la DGCIP, il y a la MIPNES qui fait ce travail de mise en réseau, de veille, de proposition, de stimulation des projets. J'ai fait un très petit inventaire, je suis sûre qu'il est tout à fait incomplet. Il y a les ZEN, bien sûr, qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a les associations professionnelles, les bibliothécaires, des réseaux de formation continue, les DSI, la jeune association des vice-présidents numériques, l'incroyable réseau constitué par les IDEFI, on l'a vu au dernier événement, je ne sais plus quand c'était, en mars ou en mai dernier, ce fantastique événement où on a vu comment les IDEFI, malgré les questions de scalabilité que pose ce type de projet qui tend à tribaliser comme ça des ressources, mis ensemble, on voit le potentiel d'innovateurs et d'innovations qui sont ainsi réunis. Et puis bien sûr les villes, les collectivités, tous les écosystèmes bruissants qui environnent l'université et qui font de nos établissements, de nos sites, des écosystèmes complètement ouverts. Mais évidemment, tout ça ne fait pas une politique numérique. Tout ça ne fait pas une politique numérique, non pas évidemment que le but soit de transformer les enseignements par le numérique, la question n'est pas là. La question, c'est le rôle du savoir et des universités dans une société où la question du savoir, de l'information, des données est totalement rebattue par le numérique. C'est là qu'est la question. Il s'agit évidemment, bien entendu, autant le redire, non pas d'un dossier parmi d'autres concernant essentiellement les infrastructures ou l'enseignement multimédia, mais d'un problème bien plus radical qui touche à nos façons d'apprendre et à ce que François appelle tout le temps l'apprendre à apprendre. Alors, les problèmes essentiels, très rapidement dans le contexte où on est, je dirais la question de la scalabilité et des poches d'innovation extrêmement toniques, extrêmement vivantes, qui remplissent des vies, mais qui ne transforment pas les établissements. La sectorisation des réseaux professionnels, on continue à agir par dossier. Les bibliothécaires vont œuvrer pour tel standard, les DSI vont œuvrer pour tel type d'infrastructure, etc., etc. Les gens des data vont œuvrer pour les data. Alors que justement, ce qu'on sait bien dans la transformation numérique, c'est que ce sont les réseaux sociaux qui viennent bouleverser les infrastructures. C'est que c'est de l'extérieur que les choses agissent. Et ça, nos métiers, nos secteurs, nos rôles, nos territoires, nos modes de travail, il faut l'avouer, parce que nous sommes quand même des organisations qui réussissent le paradoxe le plus tragique qui soit, d'être totalement verticales et sans aucun pouvoir. C'est-à-dire, on a des organisations verticales, sans autorité, et où, évidemment, on est face à une société qui, vrai ou faux, est devenue profondément bottom-up et où l'innovation ascendante est beaucoup plus intéressante dans les processus de disruption que nos verticalisations. Et nos façons de travailler, même si elles nous semblent très vivantes quand on est rassemblés ici, vous voyez, nous sommes tous en dehors, nous ne sommes pas chez nous. Quand nous sommes chez nous, nous avons nos rôles, ça passe par les conseils, c'est voté, ça redescend. Une responsable de formation continue me disait qu'elle avait 33 opérations informatiques remontées, descendre, remontées pour inscrire un étudiant de formation continue. Donc, on est paradoxalement, le numérique tel qu'on le vit en ce moment a renforcé les procédures, a renforcé aussi les tribus. Hein, quand je parlais des IDFI, il y a des tas de gens dans les universités, des tas de groupes qui sont devenus des escouades, hein, qui captent des ressources et qui se transforment en allant vers les appels à projets et autres, dans une économie dont on sait à quel point elle est destructrice et peu transformatrice au final. Alors, comment sortir de ça? On est donc face à une menace importante. D'abord, on n'est pas dans le bon agenda. Ce ne sont pas les contrats quadriennaux, ce ne sont pas les appels à projets qui rythment la réalité de notre transformation, qui pour le moment est actionnée du dehors. Il y a aussi dans nos métiers un collapsus entre deux cœurs de métiers fondamentaux qui sont la transmission des savoirs et ces métamorphoses. Et puis, il y a tout un tas de gens parmi nous qui s'occupent de ça avec passion. Et puis, l'autre métier, c'est celui de la gestion des flux que vous avez brillamment évoqué avec cette question des data. Et ces deux métiers-là entrent en quelque sorte en compétition. Et les flux très importants qu'on gère et tous les moyens qui sont sollicités autour de ça. Donc, d'une certaine façon, ni l'administration, ni les professeurs, ni les bibliothécaires, ni les DSI ne sont organisés autour d'une vraie stratégie numérique. Quand LinkedIn décide de capter nos données et nos réseaux d'alumni, ils ne nous demandent pas notre avis. Quand Gmail, Dropbox et Facebook deviennent notre SI pédagogique, nous faisons comme si nous ne le remarquions pas. Quand dans nos amphis, un étudiant lit un cours de Stanford pendant que nous parlons, histoire de voir, ce n'est pas bien méchant, mais quand même, ce n'est pas nous qui en décidons. Alors, le CNUM a été sollicité par Thierry Mandon pour donner une vue pour, effectivement, de l'extérieur, hein, puisque c'est ça aussi le sujet, qui sont de l'extérieur les gens qui regardent ce qui se passe dans l'ESR. Et la question de Thierry Mandon était vraiment très intéressante, puisque sa conviction, c'était que, enfin, le mot d'entrée qu'il avait eu, c'était la question de la pédagogie. Non pas que tout à coup, il s'intéresse plus que ça aux espèces, j'imagine, mais plutôt parce que la pédagogie, c'est là que se joue la relation, c'est là que se joue le face-à-face entre des professeurs et des étudiants. Et c'est là que le cœur de valeur, comme vous le savez, dans la transformation numérique se joue. Donc c'est bien la classe, le vrai foyer de l'innovation ascendante, parce que c'est là que sont les usages, c'est là qu'est la création de valeur, la création de savoir et la création de relations. Et il nous a demandé de regarder la transformation numérique en cours à partir de la scène de l'échange direct entre les étudiants en peer-to-peer et entre les étudiants et les professeurs. Et ce qui nous est apparu, c'est que, justement, je ne reprends pas ce que j'ai dit avant sur cette question des sectorisations, mais que les modalités de travail, les modalités de la transformation étaient plus des modalités administratives que des modalités créatives. Et un de nos efforts, ça a été de regarder comment, avec des méthodes que nous connaissons tous et que nous pratiquons de loin en loin, les méthodes du design et les méthodes de la facilitation et de l'introduction de la créativité dans les groupes de travail, on pouvait modifier les rapports de place, les rapports de force, les rapports de rôle, qui font que chacun de nous et se sent toujours plus intelligent que les autres quand il est dans un groupe à l'université et réfrène tout le temps sa façon de parler, sa façon d'inventer, sa façon d'imaginer pour ne pas entailler l'équilibre du groupe. Et on se rend compte qu'avec les méthodes que nous utilisons en ce moment, avec l'administration et avec les établissements, c'est le contraire. Quand on arrive à créer une harmonie entre les gens, au contraire, c'est le groupe, c'est l'intelligence collective qui va plus loin que chacun des individus. Donc, pour Thierry Mandon, c'est une évidence. Lui-même qui éclaire, dit-il, son ministère en invitant des chercheurs et des acteurs de l'extérieur, il est évident que la transformation qu'il attend, il la voit du dehors et avec ce brassage, avec ces facilitations. Nous avons proposé de co-construire avec les différents acteurs que j'ai évoqués, un référentiel. Alors ça a l'air idiot, on se dit référentiel, voilà une norme de plus, voilà un tableau de plus. Non, en fait, nous nous sommes rendus compte que personne n'avait jamais fait la description dynamique de l'ensemble des processus engagés. Et donc nous avons entamé la description sous forme d'un référentiel, sous forme de liste d'items, avec, en partant de 5 points politiques, la politique des lieux, la politique des contenus, la politique de la recherche, la politique ou la nécessité de trouver une politique autour de la création de valeur, que crée comme valeur l'université. Qui ose parmi nous l'assumer dans la société, dans toute la plénitude de nos intuitions? Et nous pensons que les universités devraient être infiniment plus visibles en tant qu'elles sont des forges de savoir, des forges où se travaille, où se réfléchit dans la relation entre la pédagogie et la recherche, recherche les formes de société à venir, nous pensons que ce rôle n'est pas assez fort, n'est pas assez assumé par les acteurs des universités eux-mêmes. Politique des lieux, politique des contenus, politique de la recherche, politique de création de valeur, et bien sûr, tout ça vient se cogner sur la question du design des services dans l'université, ce que j'appelle service, c'est-à-dire comment, justement, sont fabriquées les interfaces, comment sont conçues, à partir des usages ou pas, le design des services numériques qui s'appelle en ce moment système d'information. Donc, nous avons travaillé sur ces questions-là, et nous sommes en train d'y travailler, avec l'idée que la mission universitaire autour de l'open knowledge, de l'open data, de l'open access, de l'open science et de l'open society, et de la mission des universités d'inclusion aussi maintenant par le numérique, devait être complètement renforcée et que chacun d'entre nous devrait être encore beaucoup plus fier d'être à l'université. Parce que au moment où les entreprises se débattent avec leur propre transformation, où tous les acteurs des entreprises sont pleins d'angoisse face à la transformation des métiers, à une société qui exclut, à une société qui met la bagarre entre les outsiders et insiders, etc., etc., l'université devrait éclairer les débats et être encore plus présente, y compris dans la transformation numérique. De ce fait, nous avons proposé, nous avons par exemple, je donne un exemple qui me vient là, quand j'ai pensé quand François parlait, à Paris Descartes, le laboratoire Illumins, laboratoire spécialisé dans la simulation médicale qu'Albert Claude connaît bien. Que se passe-t-il ? Eh bien, finalement, à force d'être, que se passe-t-il ? Ce laboratoire produit une pédagogie médicale nouvelle en travaillant sur toutes les formes, à partir des formes traditionnelles de la simulation dans l'enseignement, en allant au plus loin, bien sûr, vers le serious game, vers la réalité virtuelle, vers l'intelligence artificielle. Que se passe-t-il ? Ils font tout ça à partir de la modélisation des savoirs des médecins. Du dehors, les entreprises disent « nous aussi, on veut en être » et considèrent l'université comme un living lab. Les rôles sont très différents. Il ne s'agit plus d'entreprises partenaires avec lesquelles on passe des contrats de prestation. C'est les entreprises qui veulent venir discuter inside avec les chercheurs, parce que c'est là qu'est la très forte valeur ajoutée si on veut que la France se développe dans une économie de la réalité virtuelle ou des data. Donc vous voyez, nos universités peuvent accueillir les entreprises et devenir des centres où cette transformation de la société et des industries par le savoir, par les données, par l'information, peuvent être vues et comprises par les acteurs externes que sont les entreprises, parce que nous sommes profondément des living labs. Alors notre dernière proposition, notre sixième proposition au CNUM, c'est une proposition sujette à controverse. Nous avons proposé de réfléchir à l'opportunité, vous voyez comme je suis prudente, de la création de fonctions de Chief Digital Officer, c'est-à-dire de gens qui, en ce moment, nous avons travaillé sur l'analogie des entreprises.
Alors, pour la francophonie, ça me paraîtrait...
Alors, en français, tu dis CDO. des gens qui assument dans les entreprises un rôle de médiation, de facilitation, d'animation et de pilotage stratégique de la métamorphose numérique. Voilà. Ça porte un nom. CDO. Transformateur, connecteur, animateur. Alors, évidemment, donc nous avons travaillé, nous avons fait une campagne d'interview avec les responsables dans les grandes compagnies comme les compagnies de transport, les banques, les compagnies de télécommunications, pour avoir une vue assez complète de ce que nous racontaient ces gens sur ce qu'ils vivaient. Parce que, en termes de grandes organisations, ils ne sont pas très très différents de nous, hein, malgré le sacrilège que représente l'analogie. En fait, ce que nous avons, ils nous disent la même chose que ce que nous vivons, hein, qui sont dans des environnement où la procédure est terriblement prégnante alors qu'on cherche autre chose, que les cœurs de métier sont devenus extraordinairement fragiles parce que tout se passe au dehors, là où la relation numérique se joue, hein, et que sur des questions comme l'hébergement des données, l'individualisation de la relation, dans notre cas l'adaptive learning, les économies de la recommandation et de la contribution, c'est à l'extérieur des universités ou des grandes organisations que l'innovation se fait. Ils nous disent aussi que en revanche, ce qui est à eux sont assez fascinés par les modèles universitaires en nous disant que autour de la formation par la recherche, on est profondément au cœur du sujet, puisque la formation par la recherche, hein, expression très employée au CRI, mais qui concerne de plus en plus d'universités très profondément, on voit bien que ça, il y a un effet du numérique dans l'accélération, la densification, l'intensité et la plasticité qui fait que les étudiants vont bien plus vite qu'avant vers la recherche, vers les expériences très variées de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, du business ou de l'engagement non-profit et de la créativité. Et donc, à des moments où justement des initiatives civic tech, OpenGov, se situent à l'extérieur des universités, ce que nous disent les CDO, c'est que 50% de leur métier est au dehors. Donc je crois que il y a cette façon que peut avoir l'université d'être à la fois un modèle, un lieu d'accueil, un carrefour, et en même temps d'inviter beaucoup plus des gens de l'extérieur à travailler avec elle. Alors, ce que nous avons vu sur ces métiers, c'est que ce sont des gens qui ont une très grande autorité, ils sont rattachés directement à leur président, ils ont un budget, ils avancent à des rythmes très rapides, ils sont sur des séquences de 6 mois, l'agenda change tout le temps, donc ils font pas des très 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 grands projets, ils font des démonstrations, des proof of concept tout le temps, et jusqu'à la scalabilité, et ils sont exactement ce que nous faisons nous, sauf que nous ne le faisons pas dans une stratégie si concertée que cela. Ils ont une culture de la création, une culture du design, une culture de la facilitation, et notre conviction, c'est que ces questions-là devraient être explicitées de façon beaucoup plus nette par nos universités, et qu'à ce prix, la métamorphose numérique de l'université est aussi la garantie d'une métamorphose de nos sociétés, où le numérique, qui peut être à la fois le modèle de la désaffection, de la virtualisation sans contrôle ou de l'automatisation, peuvent devenir, pour nos sociétés, des modèles d'inclusion, de carrefour de vie, de créativité et de transformation des modèles sociaux par une recherche qui diffuse beaucoup mieux dans la société.
Juste une question pour... c'est quoi cet OVNI, là, le CDO? Il est recruté comment? Sur quels critères? Il y en a beaucoup, ils sont fréquents, ils sont vraiment infaillibles. Comment on les juge? Comment on les paye? Comment leur autorité est-elle reconnue? Est-ce qu'ils foutent un bordel sans nom dans l'organisation? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être gérable par des systèmes administratifs qui ne sont pas habitués à entendre la loi venant de quelqu'un qui est un OVNI?
Alors, par exemple, à la SNCF, c'est porté par les filiales. C'est pas porté dans... C'est hors statut. Et c'est raccroché directement à Guillaume Pépi, par exemple, pour prendre un exemple. Alors non, pas de bordel. Ah, il y en a un seul par site, par grande boîte, quoi. Après, ça génère tout un tas de... Alors, ça se marque comment? Exactement comme nous. Nouveaux lieux, Fab Lab, lieux d'expérimentation, expérience, nouveau design, nouvelle méthode de travail, nouvelle relation avec l'extérieur, politique d'événements, politique de hackathon, comme nous, travail par les marges. Les profils, dans les entreprises, ils peuvent venir du marketing, de l'informatique, peu importe. C'est des gens qui connaissent bien, qui ont une forte culture de l'intérieur. Et chez nous, ça pourrait être qui? Ça pourrait être des DSI, ça pourrait être des VPNUM, ça pourrait être de nouvelles personnes, ça pourrait être d'une certaine façon des responsables de formation continue, etc. Peu importe. Mais ça devrait être concentré et construit dans une véritable stratégie.
On a des amis d'Orange qui sont là. Est-ce que vous avez des CDO dans votre...
Bien sûr, bien sûr.
Et comment ils fonctionnent? Est-ce qu'on... C'est assez passionnant.
C'est bon. Bonjour, Patrice Abolin d'Orange. Un, il y a le Orange, donc on a un CDO. Le CDO d'Orange est rattaché à la direction RH chez nous. Parce que la transformation digitale, ça a été dit et je préfère le dire aussi, c'est que tout simplement c'est l'humain. Donc même chez Orange, le digital c'est d'abord l'humain, donc c'est aussi pour ça que ça a été porté par la DRH. La transformation, alors pour être en contact avec pas mal de CDO, je pense à la CDO notamment de Pôle emploi, puisqu'effectivement elle est rattachée aussi. Et Pôle emploi, je fais le lien parce que tout simplement on est en train de travailler aussi pour les emplois de demain, ça a été abordé tout à l'heure. La CDO est très nouvelle. Elle connaît la structure, donc elle vient en fait d'une direction régionale de Pôle emploi, donc elle connaît l'organisation, elle est rattachée à la direction générale et elle est effectivement, je dirais, l'animatrice d'une équipe de 5 personnes qui secoue un peu le cocotier, entre guillemets, donne des impulsions et fait ce que tu as dit, c'est des pilotes, parce qu'il faut faire par petites touches, et c'est comme ça qu'est né Emploi Store aujourd'hui, que vous voyez. Sur la partie, effectivement, chez Auchan, par exemple, la CDO, et c'est aussi une CDO, est rattachée directement, en fait, à la direction commerciale, par exemple. Donc, vous voyez, il y a tous les 4 figures, mais c'est des gens qui animent un peu et souvent sont rattachés à la direction générale pour revoir et refont un peu de la transformation par petites touches.
Pen est tout à fait cohérente avec elle-même. C'est ce qu'elle a fait dans son laboratoire de recherche. C'est absolument passionnant. Mais quelle est la transposabilité à des universités moins prestigieuses? Voilà, comment est-ce que vous convainquez, vous pouvez convaincre? Parce que là, dans ce que vous exposez, ça paraît quand même un peu fou. Évidemment, c'est l'université, le lieu du vivre ensemble, c'est magnifique, c'est génial, tout le monde veut y croire. Mais concrètement, voilà, comment vous avez fait?
Moi, j'ai pas l'impression de faire de la science-fiction. J'ai l'impression d'être le porte-parole de tout le monde ici, non? Enfin, j'ai l'impression que c'est bien ça qu'on partage, hein.
Je voudrais rebondir un petit peu sur ta remarque générale pour la poser de façon un peu plus particulière. Vous parlez de l'unicité de la personne, puisque c'est en général, vous dites, c'est une dame ou une personne face à un environnement qui est collectif. Vous évoquez insider, outsider, en disant faisons rentrer les boîtes dans les universités, mais à ce moment-là, vous retrouvez la logique des murs. Je ne sais pas, c'est une question que je pose, mais...
Alors, une des grandes leçons de nos expériences diverses, hein, ce qu'on vit tous en ce moment dans les universités, c'est que plus on a travaillé en virtuel, plus on a eu besoin d'être ensemble. Et en fait, nos universités ne seront peut-être plus bientôt des lieux vraiment de cours, mais des lieux de co-travail, c'est sûr. On voit bien dans les expériences de pédagogie de terrain, de pédagogie hors les murs, où on voit des profs qui embarquent des réseaux d'étudiants qui se mettent à travailler en sciences participatives, en vivant une expérience en sciences humaines. Je pense à un exemple là d'une prof qui a, avec un très petit budget, emmené ses étudiants à Berlin pour une étude de terrain sur le genre, une autre qui a construit, etc. Donc les exemples pullulent et je pense qu'il y a une proximité bien plus grande qu'avant, et que la grande clé de tout ça pour nous tous, je pense, c'est faire confiance aux étudiants. C'est l'étudiant qui c'est la communauté des étudiants qui pilote les universités, mais on n'est pas du tout on n'est pas du tout à jour dans nos structures avec cette évidence. Et là, c'est notre expérience de vie à tous, ça.
La confiance dans les étudiants, là, c'est toujours un sujet qui est aussi une question. Parce que derrière cette confiance, il peut y avoir aussi des travers. Le jeunisme n'a forcément pas raison. La vérité de la science, c'est la vérité de la science. Et si tu as beau être jeune et tu es contre, tu dis que la Shoah n'a jamais existé, on entend ça dans les écoles, comment dire que le jeunisme a raison dans cette acceptation? C'est pas de là que viendra peut-être un discours plus cohérent et plus éducatif. Donc il faut quand même aussi ne pas tomber dans l'excès de le poids des utilisateurs, c'est fondamental, mais il y a aussi ceux qui ont justement l'expérience, la pédagogie, la capacité de transmettre, qui ont leur rôle, et c'est fondamental. Donc, voilà, l'université doit rester quand même le lieu de l'enseignement des maîtres. Je regrette si le jour où tu vas te faire opérer de tes coronaires, je ne sais pas si tu vas te faire opérer par un étudiant en troisième année de médecine.
Tu parles de ça, mes coronaires. Mais je te demande.
Qui a suivi un MOOC. C'est pour ça que j'ai demandé à Thierry Mandon, quand j'étais encore chargé de mission à son cabinet, je lui ai dit, monsieur le ministre, vous pensez qu'avec 1000 MOOC en médecine, je vais faire des médecins? Il m'a dit, vous avez peut-être raison, Albert Claude. Donc je pense qu'il y a aussi des choses à tempérer et ne pas tomber dans une espèce d'angélisme numérique, d'illusion numérique. Et parce que vous avez parlé de la libération des data. Moi, je ne sais pas, je ne mettrai pas mon enfant, s'il est autiste, dans une liste où on va dire autiste. Et à l'école, il va être marqué à vie et pour son emploi, etc. Et je crois qu'il y a un danger parce que le secret de la personne... Moi, je suis médecin. Le secret médical, c'est pas pour rien que le DMP n'existe pas véritablement aujourd'hui. Le dossier médical partagé, c'est parce que les gens ont peur. Vous dites que quelqu'un est paranoïaque, il ne trouve plus de boulot demain. Ça va être dans son dossier social.
Mais aujourd'hui, Albert Claude, Google le sait avant toi que ton fils est autiste, à sa façon d'agir et de travailler et d'avoir des préférences.
Oui, non, mais tout ça est dans un monde paradoxal, je suis d'accord. Je ne veux pas mettre en avant absolument. C'est l'équilibre qu'il faut chercher.
Oui. Je crois qu'il y a une dernière question, ou une avant-dernière. Perrine, à vous.
Perrine de Coët-Logon, donc je travaille au ministère comme expert numérique européen international. Et je voulais juste répondre à Albert Claude en attirant son attention sur les MAD skills, pour continuer à parler en anglais. Donc, tout le monde connaît ici les compétences d'agilité qui vont permettre à un étudiant de s'adapter au métier changeant. Et dans les grandes entreprises, on considère également qu'il faut des personnes différentes qui vont venir avec leur créativité, avoir une compétence folle. Voilà, quelque chose qui est disruptif et qui va permettre de s'adapter à la fameuse loi de Moore de changement tous les 18 mois.
Les communautés plurielles et non pas mono. C'est voilà. Ça, ce que tu veux dire.
Mais ça ne représente pas la totalité des salariés d'une entreprise, ni des publics universitaires. Et il suffit effectivement d'une personne qui ait cette vision et qui puisse ensuite se faire entendre.
Alors, une autre, merci beaucoup. Une question, Sophie, tu as parlé dans les référentiels que tu veux développer, de la création des valeurs. Est-ce que aussi, il y a, j'imagine, derrière ça, l'idée de la création de l'employabilité, de l'adaptation, parce qu'on va à l'université pour chercher des emplois, en définitive. Et on voit bien que les problèmes l'adaptation de l'offre et de la demande n'est pas exactement ce qu'on peut espérer de mieux. Donc,
Je pense à un exemple de Julie Joly qui, au Centre de formation des journalistes, a créé ce qu'elle appelle l'école W, l'école des métiers qui n'existe pas. Elle pense justement que c'est dans le Living Lab qu'est son école que les nouveaux métiers de la création du contenu vont s'inventer. Et elle travaille en... voilà. Donc je pense que nous, enfin, avec nos étudiants, nous pouvons inventer les métiers de demain. Et quant à... Voilà.
J'admire le travail que vous
faites.
Merci beaucoup.
Juste une réaction. Yannis Eliferis de l'Université de Nice, Sophie Andipolis encore. Par rapport au MOOC et les médecins formés que par les MOOC, je pense que justement l'ère de l'angélisme par rapport au MOOC est vraiment derrière nous. Ce matin encore, on a su que le CNAM, avec ses statistiques, nous dit que c'est l'hybride qui marche le mieux. Parce qu'on apprend finalement tout seul, mais toujours avec les autres. Bien et pour moi, c'est le présentiel qui fait vraiment la réalité des autres. Et le débat, même dans un amphi, la peer interaction, il y a tellement des approches qui font que finalement, on arrive à apprendre. Mais il faut les deux.
Je pense que la transformation du présentiel dans un présentiel virtuel est à l'heure. C'est l'essentiel. C'est le tutorat. C'est la démultiplication de l'enseignant présentiel par des personnes qui vont pouvoir prendre en charge une relation personnelle avec les difficultés des apprenants. Et on en a, nous, maintenant, ce matin, il y avait une question sur avez-vous des séries qui permettent de montrer qu'on améliore ou pas les résultats en suivant tel type de modèle présentiel ou alors un numérique assisté à distance par un, en général, c'est une population d'un tuteur. Ça peut être un tuteur étudiant, une phase un peu supérieure à celle de l'apprenant. Et eh bien, les résultats dans les examens présentiels classiques, hein, c'est-à-dire contrôlés de la même manière qu'avant, eh bien, les résultats, par exemple, sur le Master 2 de gérontologie sociale à l'Université de Caen, d'abord, on a beaucoup plus d'étudiants dans la population avec le numérique. Et en plus, donc, ils ont de bien meilleurs résultats comparés à ceux qui travaillent avec les anciennes méthodes. Donc un pourcentage vraiment très significatif, plus de 20 ou 25% de meilleurs résultats que la population qui était soumise à un modèle traditionnel. Donc là, les mutations sont en cours, c'est clair. Mais le tutorat dans les MOOC, c'est pour ça que moi j'avais imaginé, quand j'étais encore au cabinet de Geneviève, qu'on devait transformer le mot MOOC en TOOC pour tutorat. Il faut que le mot tuteur soit central, parce que la ressource MOOC est souvent, ce que j'ai dit ce matin, le béaba de la pédagogie frontale que tout le monde a critiqué. S'il n'y a pas la communauté derrière, les apprenants interactifs entre eux, etc., le MOOC, en fait, et s'il n'y a pas les tuteurs pour accompagner avec un peu plus de savoir-faire des jeunes qui ont des difficultés, eh bien, effectivement, on est dans un modèle qui se réduit, qui se restreint. Et il faut que les universités numériques de demain, celles qu'attend notre ministre, eh bien, soient celles vraiment du tutorat généralisé. Les généralisations, nos jeunes qui deviennent des tuteurs étudiants en médecine de troisième année ou de quatrième année, qui enseignent dans des disciplines particulières, on les prépare, etc. D'une part, ils deviennent de meilleurs étudiants pour leur propre parcours, Ils ont une expérience pédagogique et sociale qui est passionnante, qui les motive à fond. Ils travaillent même gratuitement. Ils peuvent être un peu payés parce qu'il y a la loi nous le permet de payer les étudiants tuteurs. Et très souvent, ils se renforcent dans leur envie de poursuivre une carrière universitaire ou de recherche. Je crois que ça, c'est vraiment des acquis qui sont maintenant démontrés. Et il ne faut plus opposer le présentiel, vieille formule, avec ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire une mutation, une augmentation, finalement. L'enseignement augmenté, je crois, ce n'est pas seulement la réalité virtuelle, c'est tout un ensemble qui est actuellement accessible. Et c'est donc une vraie révolution.
Y a-t-il d'autres questions ? On va peut-être en prendre une ou deux et après on se séparera.
Thierry Colac, également d'Orange.
Ouais, donc du coup, comme je ne suis pas du métier, cette question est peut-être un peu naïve. Donc excusez-moi à ce moment-là. Ah, c'est pour Sophie. Bon, Sophie saura répondre sans problème. On a parlé de bac-3, bac+3. On parle de formation, d'enseignement, etc. Et comme l'a dit Albert Claude, finalement, l'objectif final, c'est quand même de trouver un boulot. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on va pas plus loin? Pourquoi est-ce qu'on va pas à bac+, je sais pas quoi, qui consiste à assurer l'orientation des élèves et à aller jusqu'au premier emploi? C'est-à-dire, avec l'outil numérique, en fait, on a dit qu'on résolvait une discontinuité entre le lycée et le supérieur, mais on s'arrête à la discontinuité suivante. Pourquoi est-ce qu'on va pas jusqu'au bout, finalement?
Ben, on est face à ces deux grandes questions hein, que j'ai pas citées mais qui avaient été traitées avant. La question de la formation tout au long de la vie et la question de notre capacité à comprendre que là où on s'adressait à des gens de 18 à 23 ans en moyenne, on s'adresse maintenant à des espaces de temps complètement différents et où les gens devraient pouvoir revenir quand ils veulent et tout le temps à l'université d'une part. Et d'autre part, sur ces nouveaux métiers que Geneviève Fioraso avait inscrits dans la loi, si je ne me trompe pas, c'est ça, sur cette question de l'orientation, de l'insertion, enfin, où c'était même du temps de Valérie Pécresse, je suis un peu perdue là, je voudrais pas être injuste. Et bien là, on ne sait pas faire, et en ce moment, il y en a d'autres qui font mieux que nous sur les questions d'orientation qu'on fait LinkedIn. Donc là, c'est un challenge pour nous qui est important, puisque ça fait partie de toute cette question des flux et de l'informatique des data, etc., etc., sur lesquels il y a quand même urgence à se positionner, je pense, oui. Mais où peut-être la coopération avec Pôle emploi, qui est également challengée par Le Bon Coin et compagnie, je pense qu'il y a des nouveaux consortiums à construire sur des grandes fonctions d'inclusion sociale et de montée en compétences.
Dernière question.
Oui, bonjour, Sonia Hainaut, Catch Business School. Je fais partie des aliens qui travaillent avec les enseignants et l'école pour travailler à la transformation numérique de l'école. J'avais une question qui concernait finalement... On a évoqué les tuteurs, là vous venez d'évoquer les tuteurs, je pense que c'est un sujet intéressant. Vous avez évoqué les différentes expériences que vous avez menées à l'aide des étudiants qui vous ont aussi fourni de la matière pour construire cette expérimentation-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez dimensionné un petit peu les dispositifs en termes de nombre de personnes, ressources nécessaires? Je veux dire, les tuteurs dont vous parlez qui accompagnent le master médecine ou la gérontologie, combien sont-ils? Comment ça fonctionne? Quel budget vous y investissez? Comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des études qui sont faites dans ce sens-là pour aider finalement les établissements à se mettre en place sur cette dynamique?
Je crois qu'on est dans des économies de pénurie. On n'a pas beaucoup d'argent. On utilise des décrets qui permettent de faire travailler les étudiants comme assistants dans les bibliothèques ou dans les services TIS ou comme tuteurs. Dans la loi pour une république numérique, il y avait eu une affirmation par Axel de Maire que de nouveaux métiers de médiateurs, de facilitateurs devaient être reconnus, à la fois pour l'inclusion sociale en général, mais aussi sur les questions de transmission de savoir. Donc c'est une question qui est posée à la société. Aujourd'hui, je pense que personne ne va chiffrer, parce que je pense qu'on est quand même beaucoup plus sur du peer-to-peer teaching, sur de l'entraide, sur des systèmes informels. Il n'y a toujours pas de métier de mentor en France. Il y a eu un essor assez fort au moment de l'essor de l'enseignement en ligne dans les campus numériques, selon des modèles canadiens. De mon point de vue, on n'a pas beaucoup progressé, mais il y a peut-être d'autres points de vue dans la salle.
Juste pour répondre à la question concernant le fonctionnement du tutorat, dans le programme qui a été au sein d'un PIA 1, IDEFI sur l'enseignement de la longévité, eh bien, d'abord, on a eu des moyens liés au PIA qui nous a permis de démarrer. Mais nous, notre objectif, c'était de montrer que si le processus qu'on mettait en place pouvait devenir pérenne, c'est par le financement. Alors, on est dans le cadre de la formation continue, c'est-à-dire où les gens payent pour leurs inscriptions, sans modifier les tarifs habituel de l'enseignement présentiel, on voit qu'on augmente l'offre de participation de manière très significative. On augmente les flux d'étudiants en introduisant des masters en ligne tutorés. Un tuteur en moyenne pour 10 étudiants, parfois c'est un, ou pour 4 ou 5, ça varie un peu, mais on a actuellement plus de 1500 étudiants qui se sont inscrits dans ces masters en ligne. On a recruté par l'argent des inscriptions des étudiants, on peut payer ce quota de tuteurs. On a 148 tuteurs qui ont d'abord été souvent des étudiants à l'intérieur de la première vague de notre formation. On les a implémentés en matière de pédagogie inversée, etc., de rapport au tutorat, donc on les a véritablement formés. Et ils sont maintenant considérés... Alors, d'une part, pour eux, c'est une découverte d'un métier qui les passionne. Ils ne s'y attendaient pas, souvent. Le plus souvent, ils disent c'est incroyable, le lien humain qui se développe dans ces échanges à distance avec nos étudiants. Et ça, c'est vraiment très fort. Et on voit que le système va se pérenniser. Mais alors, on a quelques obstacles. Alors, c'est illustratif de l'administration, malheureusement. Les OPCA, vous savez, qui financent les formations continues tout au long de la vie, dans 50% des cas, refusent les dossiers de ces gens qui demandent de s'inscrire dans les formations en ligne. Parce que le système, ils disent, mais c'est pas... comment peut-on avoir la liste des signatures de la participation présentielle? Ils en sont restés à ça. Et on a beau, et les services de formation continue des universités se battent avec les OPCA. On n'arrive pas. Alors il faut peut-être le CNUM pour que tu interviennes avec la force que tu as pour modifier cet état des choses. On demande à nos étudiants à distance en Afrique de fournir leur certificat de vaccination. C'est ubu. Mon cher François, il faut faire quelque chose. Et le virus informatique était peut-être celui auquel on n'avait pas pensé.
La grande école du numérique a essayé de s'attaquer à ça sur la question des OPCA et de l'éligibilité des formations.
Eh bien, c'est pas réglé. Madame la sénatrice, on compte sur vous.
Alors, je vous propose que pour clore la journée, nous ayons une ou deux questions Twitter. Ça ?
Oui, effectivement, il y a... Oui, pardon, Cyril Duchamp.
Cyril Duchamp, tout le monde le connaît, l'AEF.
Comme vous avez pu le constater, ça s'est pas mal animé sur Twitter hein, toute la journée. Ça va continuer certainement demain. Il y a eu un certain nombre de questions. Alors, on a eu notamment une question très précise sur le design des services numériques à l'université. Donc ça, c'est une question pour Sophie Penn. Aujourd'hui, c'est quelle est la réalité cette approche par design au niveau des services en place et quel est le niveau de mutualisation de ces pratiques? Ça démarre ou il y a quand même déjà un peu de...
Ça démarre, il y a un discours sur le design en France. Dans la réalité, quand on cherche des intervenants, c'est compliqué parce qu'il y a des effets de chapelle. Il y a eu, sous l'égide d'Arnaud Bonnebourg, une mission design qui visait... on a le grand exemple en France de la 27e région et des laboratoires d'innovation publique pour la transformation des administrations. Du côté du gouvernement, il y a le SGMAP et la question, on pourrait dire, modernisation ou nouveau design des services de l'État, bien au-delà de l'administration universitaire. Je pense qu'on est sur des prototypes, sur des démonstrateurs, et que ce qu'on essaie d'impulser d'ailleurs avec et autour de Thierry Mandon fait partie quand même des premières démarches organisées, affirmées, revendiquées dans ce sens. Donc c'est pourquoi on y attache une importance particulière.
Ok. Puis on a identifié deux questions qui sont très 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 larges. Je pense qu'on reviendra dessus demain. Finalement, qui correspondent à une interrogation, c'est est-ce que les promesses ont été tenues? La première question concerne les UNT, on en a parlé tout à l'heure lors de la table ronde, c'est de savoir si finalement, est-ce qu'elles ont été un moteur ou un frein à l'appropriation numérique par les enseignants? La question est posée de manière un peu brutale, mais ça a le mérite de la clarté. Et la deuxième question, elle est un petit peu dans cet endroit-là, au niveau des MOOCs. C'est un rappel historique, mais enfin pas seulement historique, parce qu'il y a des références Fioraso 2014, Stranes 2015, sur les missions qui avaient été ou qui sont assignées au MOOC, qui on parle de réussite étudiante, d'allègement du présentiel, donc c'est la fin des amphis, d'ouverture internationale et de source de financement pour le supérieur. Quid aujourd'hui ? Est-ce que ces promesses sont tenues ? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas du tout ? Demain, on va aborder ces sujets-là, Albert-Claude. Je pense qu'on sera vraiment pleinement dedans.
Juste un mot sur la transformation numérique des enseignants. Est-ce que nous avons, nous avons joué un rôle favorable ou défavorable ? C'est très difficile de te répondre, mais je pense que il faut répondre peut-être par des exemples. J'ai connu dans mon service, mon chef de service, qui lisait ses mails, qui avait son smartphone, etc. Et il me disait, tu crois que avec le numérique, tu vas changer quelque chose à l'enseignement de la chirurgie ? Et je lui disais, cher collègue, oui, absolument, j'en suis convaincu. Et je pense qu'actuellement, beaucoup de nos chirurgiens sont formés avec des simulateurs dont on a parlé, par exemple, à l'école de chirurgie virtuelle, qui est devenue une vraie réalité. Donc, voilà, il y a ceux qui n'ont pas compris l'espace culturel nouveau qui est créé pour la pédagogie par le numérique. Ils ont compris pour leurs propres usages personnels qui sont dans un monde numérique. Et de plus en plus, on va le voir pour toutes sortes d'activités. Vous avez votre smartphone et vous avez vos applications qui vous disent si vous êtes déprimé, hypertendu, coronarien, prostatique, etc. Et donc, et les gens vont croire qu'ils ont un docteur dans leur smartphone. On prépare le 17 janvier, ceux qui s'intéressent à la santé connectée, je présente à l'Académie de médecine une grande séance sur la santé connectée et le numérique et la relation à l'homme malade. Parce que c'est ça qui reste, malgré tout, l'alpha et l'oméga des médecins. Merci. On verra demain, donc, tous ces sujets, il faut les traiter.
Il est toujours possible de tweeter au hashtag StratNum, donc ça sera le cas demain, pour prendre les questions. Il y aura un temps de débat, d'échange en fin de journée. Et puis, de rappeler aussi que la journée de demain est également diffusée en direct, grâce au travail des équipes de Canal U, qui font un super boulot, quand même. Voilà.
Merci beaucoup. À demain matin.